Comme tous nos clients prévoyants, mettez votre famille à l'abri avec l'assurance décès. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les débats sur l'immigration reviennent au Parlement français cet automne. Débats précédés par des affirmations, certaines déclarations parfois tapageuses et un certain nombre d'approximations qui ont poussé la ministre de la Santé Agnès Buzyn à prendre une position sans équivoque au sujet de l'aide médicale d'État, ce dispositif de protection santé pour les ressortissants étrangers en situation irrégulière ou précaire. Nécessité absolue de préserver l'AME pour la ministre, démenti des fantasmes de certains politiques sur des pseudo-remboursements abusifs, sujet de l'immigration décidément fertile en contre-vérité qui se heurte aux réalités sanitaires des personnes en état de déracinement, troubles physiques, maladies chroniques, et c'est notre sujet du jour, répercussions en termes de santé mentale pour les réfugiés ou les migrants. Comment le départ, comment le parcours et les obstacles à l'arrivée conditionnent la santé psychique des migrants et des demandeurs d'asile, quels sont les traumatismes et quelles sont les traductions physiques de ces chocs propres à ces cheminements singuliers, complexes et parfois chaotiques. Écouter, interpréter, diagnostiquer et prendre en charge un récit traumatique dont l'importance devient vitale lorsqu'il conditionne purement et simplement le droit de vivre ailleurs qui devient le droit de vivre tout court. La vie psychique des réfugiés, c'est le titre de votre ouvrage. Élise Pestre, bonjour.
Bonjour.
Ouvrage réédité aux éditions de la petite bibliothèque Payot. Élise Pestre, vous êtes psychanalyste, maître de conférences à l'université Paris Diderot. Également avec nous, Mélanie Kerlock, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne pour Médecins sans frontières et responsable des activités de santé mentale du centre MSF pour mineurs non accompagnés à Pantin en région parisienne. Témoignage, récit d'exil, Leslie Carretero, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Infomigrant, site d'information destiné aux migrants. Et tout à l'heure, nous retrouverons en ligne de Guinée Alassane Chérif, psychologue clinicien et ethno-psychanalyste en Guinée-Conakry.
Priorité santé sur RFI.
Alors évidemment, des parcours migratoires, des expériences d'exil singuliers, mais cette question pour commencer, est-ce que le fait d'être migrant, d'être étranger, demandeur d'asile, présente un sur-risque en termes de santé mentale, de troubles psychiatriques? Question que je vous pose à toutes deux praticiennes. D'abord, Élise Pestre, est-ce que c'est quelque chose que l'on constate, en fait, on va dire, une vulnérabilité supérieure aux autres individus?
Alors, il ne faudrait pas considérer que l'étranger est nécessairement beaucoup plus vulnérable. Hein. Ça dépend vraiment de la structure psychique, de comment la personne s'est construite dans sa vie. Hein. Mais tout de même, ce qu'on observe, c'est que le fait de se déplacer d'un territoire à un autre, d'habiter un autre lieu, le changement de langue, d'un certain nombre d'humains culturels, déstabilise. Hein, et donc va déstabiliser si on est des fois un petit peu fragile avant, ça va pouvoir faire un peu éclater certaines défenses, comment la personne vivait avant, hein, ça va pouvoir avoir un impact. Mais souvent ça peut être juste transitoire, ça veut dire avec l'exil la personne va pouvoir être vulnérable un temps, mais après récupère une vie normale. Mais parfois, non, ça fait céder des choses de son psychisme, et donc là, il devient plus vulnérable.
Et vous aussi, est-ce que c'est quelque chose que vous considérez une sorte de sur-risque, vulnérabilité augmentée, Mélanie Kerlock, où finalement, tout va dépendre des cas particuliers, puisque vous travaillez précisément avec des mineurs, c'est encore autre chose?
Oui, tout à fait. Donc là, moi, je vais parler juste de cette catégorie-là. Donc on travaille avec des mineurs non accompagnés qui ne sont pas reconnus par l'ASE, ce qui fait qu'ils n'ont pas de protection à ce titre et qu'ils sont dans la rue. Donc c'est un sous-groupe très spécifique.
Important par contre de toujours détailler les sigles que vous employez. L'ASE, c'est...
Alors c'est l'aide sociale à l'enfance. Et donc ce sont des jeunes qui ne sont pas reconnus comme mineurs en tant que tels et qui n'ont donc pas de protection de la part de l'aide sociale à l'enfance. Ils se retrouvent donc en situation de rue et de grande précarité. Donc pour nous, il est clair qu'au départ, quand on a ouvert le centre il y a 2 ans, il y avait une vulnérabilité présupposée qui est confirmée 2 ans après du fait que 99% d'entre eux ont pris la route à pied. Ils ont fait majoritairement la traversée de la Méditerranée sur des barques de fortune. Donc il y a un parcours extrêmement difficile. Et donc, je vous rejoins sur ce que vous disiez, Lise Pestre. Pour la majeure partie d'entre eux, c'est transitoire. Il n'empêche que pour nous, il y a besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est que la santé mentale et les soins psychiques, et d'y donner accès à ceux qui ne pourraient même pas penser, en fait, qu'ils peuvent soigner les troubles qu'ils développent.
Précisément, sur ces troubles, certaines pathologies qui vont se développer, on l'a bien compris, elles ne sont pas inscrites dans leur identité. Ce sont des choses qui sont survenues au fil de l'expérience. Est-ce que vous avez relevé, Élise Pestre, des pathologies spécifiques? Vous employez le terme de clinique de l'asile. De quoi s'agit-il?
Alors, la clinique de l'asile, pardon, je l'ai déterminée en quelque sorte avec des personnes, donc pas seulement étrangères, hein, mais des personnes qui vraiment cherchent un asile, cherchent un refuge, une hospitalité du politique. Hein. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces personnes-là, souvent, hein, donc là on entre dans une catégorie quand même assez particulière, qui fuient des persécutions, qui fuit des violences souvent extrêmes, eh bien, n'est pas nécessairement accueilli sur notre sol, hein, du fait de la sécurisation des frontières, de leur fermeture. Hein, et c'est pas seulement en France, c'est en Europe, en Occident, d'une manière plus générale. Donc là, oui, j'ai travaillé depuis cette catégorie de personnes qui cherchent asile et refuge, mais qui n'en trouvent pas. Hein, donc là, on en revient à la question précédente. Donc là, oui, on a déjà un public qui est fragilisé, vulnérabilisé parce qu'il fuit des violences, des persécutions hein, qui parfois n'ont pas eu lieu, mais il y a un contexte comme ça déjà difficile. Et qu'en plus, ils arrivent là et qu'il n'y a pas d'accueil. Donc là, oui, ça peut déclencher un certain nombre de troubles. C'est ça la clinique de l'asile, hein, c'est-à-dire souvent une actualisation du trauma, c'est-à-dire le fait de ne pas être accueilli, d'être en situation de grande précarité, dans la misère, eh bien ça va, si vous voulez, fournir une espèce de terreau fertile à ne pas aller mieux, si ce n'est que plus mal. Hein. Donc les personnes vont se déprimer, vont se refermer. Hein. Donc là, la question du corps va être fortement impactée, hein, souvent, et un certain nombre de troubles qui vont aussi dépendent de leur propre structure psychique, hein, de leur trajectoire de vie. Ça se relie toujours à l'histoire singulière hein, de la personne. Mais voilà, il va pouvoir y avoir aussi une actualisation difficile liée. Il y a des parcours très, très difficiles aujourd'hui.
Hein. Et justement, dans ces récits, parce que l'essentiel de votre livre s'appuie justement sur ces témoignages indispensables pour obtenir finalement... Mmh. Éventuellement le sésame, l'asile, on sent le paradoxe, c'est-à-dire qu'il faut dire ce qui s'est passé, et pourtant, la plupart du temps, ce qui s'est passé est à la limite de ce que l'on peut entendre, c'est absolument abominable, donc injonction à témoigner, raconter dans les détails, force de détails, la souffrance, la violence, la perte, tout ça pour avoir le droit de rester. Ça veut dire, on vous ouvre les portes si vous avez suffisamment souffert. C'est ce qu'on ressent.
Tout à fait. Oui, oui, c'est bien formulé. Hein. C'est-à-dire, il y a besoin de témoigner pour prouver qu'on a fui des persécutions. Mais témoigner, eh bien, pour un sujet humain, hein, on le voit d'ailleurs pas qu'avec les réfugiés, on le voit dans la clinique d'une manière générale. Hein, témoigner de maltraitance, témoigner de
des fois, de ça prend des années. Ça prend des
très années. Très intime, prend des années. Hein, on l'a vu avec certaines lois qui ont levé hein, pour les maltraitances. Finalement, voilà, on laisse plus de temps parce qu'on se rend bien compte que former un témoignage qui soit audible, c'est-à-dire avec une structure dans le temps, eh bien, ça prend du temps. Il faut se rassembler au niveau de sa mémoire, de sa psyché. Or, quand on vit des violences extrêmes, eh bien, ça éclate le psychisme, hein, le corps et le psychisme. Et donc, la personne a plein de petits bouts de puzzle, si vous voulez, dans la tête, et il faut recoller les morceaux. Or, tout ça prend du temps. Et il faut un accompagnement, il faut de la confiance. On n'a pas tous envie d'aller raconter des choses qu'on a vécues très intimes, violentes, contre notre gré, au premier venu. Et là, il y a quelque chose de très compliqué qui se met en marche, parce qu'il y a cette injonction, hein, ce dont j'ai parlé, d'une injonction à témoigner depuis les autorités, hein, l'État, qui a besoin de ce témoignage, hein, bien sûr. Mais en même temps, psychiquement, il y a ce qu'on appelle, nous, des défenses. Hein, c'est-à-dire que le psychisme se protège, hein, le moi du sujet se protège, et ne peut pas sortir un déroulé comme ça, un récit très structuré.
Vous utilisez le terme de verrouillage, c'est très parlant. Il y a des portes qui se ferment dans le cerveau, hein, si on veut s'y donner des images. Ça se bloque, comme des verrous dans une espèce de labyrinthe pour protéger justement d'un flot émotionnel qui serait destructeur.
Tout à fait, se défendre de l'actualisation traumatique, hein, c'est-à-dire des traumas plus ou moins enfuis, qui vont pouvoir se déverrouiller et sauter. Et là, c'est la crainte d'un flot, hein, comme vous le dites, qui envahirait le sujet. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que la temporalité, hein, des scènes de l'exigence juridique, hein, contemporaine, ne favorise pas vraiment un déverrouillage qui serait accompagné, plus lent, hein, qui prendrait en compte la temporalité du sujet. C'est-à-dire, il faut produire un témoignage construit dans le temps, audible.
Qui corresponde à une norme qui n'est pas du tout la norme de la personne qui vient d'arriver, qui est traumatisée.
Bah, c'est ça. Si on prend en tout cas des personnes traumatisées, hein, tout le monde ne l'est pas, bien sûr, mais en tout cas, déjà, voilà, ou traumatisées ou vulnérabilisées, c'est-à-dire on n'a pas confiance une fois de plus d'emblée, il faut qu'un lien se crée, et ce n'est pas évident, hein, que de produire un récit comme ça, structuré, en plus, bon, sans même parler de la question des langues, hein, qui se rajoutent à ça, c'est-à-dire comment on va être traduit, qu'est-ce qu'on fournit. Donc, vous voyez, il y a comme, hein, c'est ce que je décris dans ce livre, mais un achoppement des scènes, hein, c'est-à-dire, enfin, c'est des scènes qui rentrent un peu l'une contre l'autre. Ce que veut le juridique, ce que veut le politique, c'est-à-dire un témoignage clair des persécutions craintes, hein, ou vécues, et puis la scène psychique qui se défend de fournir un récit très vite. Alors, pas dans tous les cas, des fois, ça peut heureusement, hein, être fourni, mais ce n'est pas la majorité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer sur le terrain et dans mes travaux de recherche.
Mélanie Kerlock, Centre de Pantin, donc vous recevez des jeunes souvent à la rue. Est-ce qu'on peut décrire certains des troubles, certaines des pathologies dont ils souffrent ?
Effectivement, dans les jeunes qu'on reçoit, pour un certain nombre, ils développent des psychotraumatismes du fait d'histoires précédentes, donc du pays d'origine et ou de la route, qui peuvent être majorés, et la plupart du temps ils sont majorés par cette immense précarité sociale dans laquelle ils sont à l'heure actuelle, dans cette attente aussi d'une décision qui les concerne, qui va décider de leur futur ici. On a aussi des jeunes qui n'étaient pas traumatisés en partant, ont tenu le long de la route, si je peux m'exprimer comme ça, et qui arrivant ici, se trouvant dans ce vide juridique, puisqu'ils sont ni mineurs ni majeurs, et ils n'ont pas d'inscription sociale et administrative possible, ce qui les bloque dans un certain nombre d'accès à leurs droits, ils peuvent développer alors une grande détresse psychique, qu'on peut aussi appeler trouble de l'ajustement en fonction des classifications qu'on utilise. En tout cas, nous, on assiste à une formalisation de troubles du fait de cette situation et de cette précarité.
Il y a quoi comme expression de ces troubles ?
Alors, comme expression de ces troubles, de ces seconds-là, la plupart du temps, c'est une immense tristesse, une très très grande anxiété liée au futur, un manque accru de la famille au pays ou des membres perdus, puisqu'on a quand même la moitié de nos patients qui ont perdu un proche avant le départ. Et donc, effectivement, un état de fragilité intense avec l'impossibilité ou la grande difficulté de faire confiance, ou des comportements extrêmement adhésifs qui vont chercher effectivement de l'aide à tout va, et donc des jeunes qui s'exposent aussi à de nouvelles violences et de nouvelles manipulations. Bon, on peut décliner ça sur différents...
un travail d'écoute, de diagnostic, et bien sûr la question de la langue. Comment on fait justement pour soigner quand on a affaire à des personnes de toutes nationalités, toutes origines, même si bien sûr, quand on est sur certaines périodes, ce sont certaines populations qui arrivent en fonction des différents flux migratoires. Mais Lani Kerlog, vous travaillez comment au niveau de la langue ?
Alors nous, on travaille avec des interprètes, parce qu'effectivement, on ne connaît pas l'ensemble des langues de nos patients. Et c'est quelque chose que l'on sait faire à Médecins Sans Frontières, je dirais, puisqu'on est habitué à travailler à l'étranger, et donc du coup à travailler avec des interprètes. Donc on a l'immense chance d'avoir des interprètes dans notre équipe. Donc pour nous, ce sont des partenaires du soin ou aussi d'autres activités qu'on peut faire dans le centre. Et donc effectivement, on travaille en binôme pour recevoir le jeune dans sa langue et dans la langue dans sa langue natale ou dans la langue de son choix.
Automne 2019, aujourd'hui, c'est qui ces jeunes qui arrivent ? C'est ce que vous repérez des groupes de population, de nationalité ?
Oui, alors c'est pas forcément... Voilà, les mineurs qui sont non accompagnés et qui ne sont pas reconnus par l'ASE ressemblent à ceux qui sont reconnus par l'aide sociale à l'enfance, mais qui ne ressemblent pas au public de rue des migrants. Et donc on a beaucoup de Maliens, beaucoup de jeunes de Guinée-Conakry, de Côte d'Ivoire, des Afghans... Et quelques jeunes qui viennent du Soudan, du Tchad, majoritairement, c'est ça.
Donc Mélanie,
beaucoup de jeunes qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Mais ce que vous soulignez, en tout cas, sur la question de la langue, pour nous, c'est extrêmement important. Et on partage ça avec différents services et avec aussi les recommandations de la Haute Autorité en Santé à l'heure actuelle. Et on va vraiment dans ce sens. Il est extrêmement important que les gens qui arrivent puissent s'exprimer et que les soignants se dotent de ces outils-là pour faire du soin. C'est vraiment important que le soignant puisse accueillir dans la langue que son patient comprend et qu'il puisse exprimer, parce que non seulement ça permet le soin, mais ça permet que les choses soient plus rapides aussi.
Éviter de monter une barrière supplémentaire, Elispe, ça fait aussi partie de votre travail, la prise en considération de cette verbalisation, et ça passe forcément par la langue maternelle, avoir un intermédiaire capable non seulement de traduire, mais aussi de traduire dans les termes qui correspondent à ce qu'a véritablement vécu la personne.
Absolument. C'est-à-dire nous, depuis la psychanalyse et la psychologie clinique, on travaille depuis les mots, bien sûr. Donc chaque mot employé par un patient fait sens. On appelle ça des signifiants, et on va travailler depuis ces mots-là. Or, bien sûr, il est tout à fait important qu'il y ait une traduction qui puisse être faite au plus près de ce que veut exprimer la personne. Et je rebondis sur ce que disait Mélanie Kerlock. Je trouve ça intéressant quand vous dites c'est une immense chance qu'on ait des interprètes sur place dans le centre avec les mineurs. Et je trouve, je me dis, ça fait vraiment symptôme. C'est-à-dire, on en vient à se dire que c'est une immense chance
de travailler normalement,
de travailler avec des interprètes, alors que c'est la base. Vous voyez, c'est-à-dire comment travailler, qui plus est, avec des jeunes qui ne pourraient pas s'exprimer dans la langue qu'ils veulent. Alors moi, si j'ai quelque chose à rajouter là-dessus, je dirais ça. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il faut toujours de l'interprétariat. C'est extrêmement nécessaire. Mais il faut aussi respecter le choix du patient. C'est-à-dire moi, par exemple, j'ai mon cabinet en libéral où je reçois des personnes réfugiées qui ont choisi de venir me voir. Donc évidemment, je fais des tarifs tout à fait adaptés, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont choisi aussi de parler français. Et donc, des fois, on n'ose plus dire certaines choses en dehors de sa propre langue. Donc, il ne faut pas du tout forcer. C'est le choix du sujet, et de lui, quelle langue il veut parler. Donc, c'est tout à fait important de dire, tiens, on met à disposition tel interprète, mais des fois, on a vécu des violences tellement insupportables dans sa propre langue. On a décidé de vraiment, on veut plus entendre parler de sa langue.
On trouve refuge dans une autre langue.
Qu'on trouve refuge absolument dans une autre langue.
Alors, je me retourne maintenant vers vous, Leslie Carretero. Je disais tout à l'heure en vous présentant, Infomigrant, site d'information destiné aux migrants, parcours, accueil, témoignages. Alors, ce qui nous intéresse, Leslie, d'abord, c'est quelles paroles arrivent jusqu'à vous et comment ?
Alors nous, on est très présents sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, voilà, tous les réseaux sociaux qu'utilisent tout le monde, mais aussi les migrants sont très présents sur Facebook. Donc on reçoit beaucoup de témoignages via notre boîte de réception Facebook et aussi via notre boîte de réception WhatsApp. Et voilà, tout ce qui a été dit jusque-là vient jusqu'à nous. On a des témoignages, donc comme vous disiez tout à l'heure, dans certains pays sur la route, mais on a aussi beaucoup de témoignages de gens qui arrivent en Europe et qui sont complètement démunis psychologiquement.
Mais qu'est-ce qu'ils attendent de vous, Leslie? Parce qu'ils vous appellent, ils racontent. Ils attendent quoi derrière? Que vous transmettiez ce qui leur est arrivé à tout le monde, ou ils attendent aussi une aide concrète de votre part?
Clairement, ils attendent une aide. Donc nous, à nous de leur expliquer aussi que nous, on est journalistes et qu'on ne peut malheureusement pas les aider. On peut juste raconter leur histoire. Donc on les oriente vers les associations. Mais alors c'est vrai que c'est aussi compliqué. Il n'y en a pas beaucoup des structures psychologiques, notamment en région. Donc on fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai que premièrement, eux, ce qu'ils veulent, c'est des conseils. Moi, je reçois beaucoup de personnes qui me disent qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire, vous me conseillez quoi. Moi, je ne suis pas capable de répondre à ça.
Et justement, vous êtes en situation dégoûtante, Leslie Carretero. Vous avez reçu une formation pour cela?
Alors, on n'a pas reçu de formation, mais je pense comme tous les journalistes qui travaillent sur plein de sujets, je pense aussi aux reporters de guerre ou ces choses-là qui n'ont pas reçu forcément de formation. Au sein de cette entreprise, il y a une psychologue qu'on peut aller voir, mais pas de formation spécifique, non.
Et l'ISPES, c'est quelque chose que vous faites? Vous appuyez des écoutants, des travailleurs, des praticiens pour justement montrer un petit peu, parce qu'il y a aussi une vulnérabilité de la part de la personne qui recueille cette parole. Ça peut être compliqué à gérer. Quand on rentre chez soi le soir, ben, la vie continue et on a entendu 1, 2, 3 récits traumatiques au cours de la journée. Ça peut être quelque chose de très pénible.
Tout à fait, hein. C'est vrai que c'est essentiel là quand on se destine à accueillir des personnes qui ont des trajectoires parfois de violence extrême, qui sont dans une nécessité vis-à-vis d'un autre, hein, qui pourrait presque les sauver, une nécessité comme ça absolue, hein. La précarité, ça a à voir avec la prière, hein, c'est-à-dire une précarité. Finalement, je demande à un autre une aide.
C'est souvent un appel à l'aide.
Un appel
aussi,
à l'aide,
c'est aussi qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. En fait, voilà, ils nous demandent à nous parce qu'on est la première personne.
Bah, tout à
plus
fait.
Facile d'accès,
mais
en
oui,
fait, pour
c'est
eux.
Ça qui est plus facile d'accès. Mais d'où l'importance, et vous le disiez d'ailleurs, c'est-à-dire que moi, je crois qu'après, on peut tout à fait se former. Hein, il y a de la formation continue. Hein, nous, enfin moi, on en fait beaucoup, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous des supervisions, parler de ce qu'on vit au quotidien avec ces populations très très exposées, parce que de manière un peu dans un effet de miroir, hein, dans un mouvement comme ça de réfléchissement, hein, on est pris soi-même aussi, on se voit aussi très exposé à cette violence-là, hein, à travers les paroles. Donc il est essentiel de pouvoir, oui, avoir un lieu où on peut élaborer sur ce qu'on accueille, et c'est vrai que ce qui est très difficile, c'est finalement vous retrouvez, parce qu'il n'y a pas d'autres dispositifs.
Il y a une carence.
Il y a une carence absolue, hein, je crois que c'est quand même essentiel de le dire, hein, c'est-à-dire que les personnes sont tellement désespérées que c'est à vous qu'elles viennent dire « donnez-moi de l'aide psy ». Je voudrais aussi rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure des structures spécialisées de soins psychiques. Je crois que c'est tout à fait important d'avoir en tête que oui, bien sûr, il y a plein de structures. Enfin, voilà, il y a vous, par exemple, MSF, il y a aussi Médecins du Monde qui fait un accueil, il y a Primo Levi, il y a le Comet. Enfin, nous, on travaille du côté de la recherche avec toutes ces structures de soins où il y a des collègues qui font un travail remarquable. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que les structures de soins de droit commun sont là aussi pour accueillir tout le monde.
Ça veut dire l'hôpital.
L'hôpital, et que les psychologues, les psychiatres, il ne faudrait pas fantasmer sur une espèce de barrière de la langue, par exemple. Eux aussi peuvent avoir des dispositifs de traduction. Et puis, les psychologues, on a cette chance-là de pouvoir être formés tout au long de notre carrière. Donc, à un moment donné, bon, il faut aussi... Et puis même... A priori, un psychotrauma, bon, vous voyez, c'est quand même quelque chose que je veux dire, juste pour finir, mais c'est que c'est essentiel aussi de se dire, oui, spécialisé, mais pas seulement, c'est-à-dire, c'est aussi pour tout le monde, et vous voyez, il faudrait, bon, alors oui, il faudrait plus de formation, enfin, nous, on le fait, par exemple, moi, je suis enseignante en psycho, on donne un cours sur exil, violence, etc., dans le parcours social, vous voyez, donc c'est important qu'il y ait une écoute qui soit plus spécifique en quelque sorte, mais que ce soit pas, ça n'oblige pas à se restreindre là-dessus, sur ces structures spécialisées.
Mais là, vous parlez beaucoup de Paris. Enfin, les structures sont très présentes à Paris. Quand on part de Paris, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense à tous les CAO, les centres d'accueil et d'orientation, les CADA, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, où en fait, ils sont au milieu de nulle part, en région. Ils n'ont pas cet accès-là. Les psychologues ne viennent pas forcément dans ces centres, ou alors une fois par mois. Et c'est compliqué pour eux de se rendre à Paris. Il faut payer un billet de train, ils n'ont pas les moyens. Et donc, j'entends ce que vous dites, mais c'est vrai que c'est très propre à la région parisienne, j'ai l'impression.
Pour revenir au témoignage que vous recueillez, Leslie Carretero, est-ce que vous diriez que chaque chose est singulière ou il y a des traits communs dans ces récits? Il y a un état psychique, un état mental qui se retrouve de façon un petit peu, sans parler d'uniformité, mais de façon commune, ou c'est vraiment... Chaque cas est différent.
Il y a une uniformité, en effet, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors nous, on a beaucoup de témoignages depuis la Libye, où en effet, on nous demande encore une fois de l'aide et on nous dit que... Moi, je reçois des témoignages, on souffre, aidez-moi. Mais l'état mental est plus poussé, si je peux dire ça comme ça, enfin, est plus fort en arrivant en Europe, parce que moi, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui me disent « Je pensais pas que ça se passerait comme ça en arrivant en France ou en arrivant en Allemagne. »
C'est comme ça a éclaté à l'arrivée.
Voilà, c'est ce que m'avait dit un psychologue, c'est que c'était un peu le syndrome post-traumatique, en fait. Tout ressort, enfin, vous le direz mieux que moi et vous l'expliquerez mieux. Mais des témoignages que j'ai, c'est vraiment que tout ressort en étant dans la rue, en étant dans des centres, trimballé à gauche, à droite, sans savoir son futur, son avenir, ce qui va se passer. Et ils s'imaginaient pas ça. Ils s'imaginaient sur la route des difficultés, ils savaient comment ça se passait en Libye. Ils ne savaient pas comment ça se passait en France. Et c'était inimaginable pour eux que ça se passe de cette façon-là.
Mais Mélanie Kerlock, est-ce qu'il y a justement une expression ou des troubles différents en fonction des différentes étapes de ce parcours migratoire?
En corrélation avec ce que vous disiez à l'instant, il est certain que les gens qui sont sur la route tiennent. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau psychique, vous parliez de l'aspect défensif tout à l'heure, Élise Pestre, le psychisme, il s'est mis en condition pour...
Pardon ? Ils sont dans l'action,
en résistance. Oui, tout à fait. Et donc, l'arrivée, ce n'est pas terminé. Et donc, il y a cette immense déception qu'on pensait que la route allait s'arrêter et qu'on pourrait s'installer. Et finalement, non. Donc je dirais qu'il y a une expression de souffrance qui est majeure dans ce temps de précarité et de rue, mais qui peut être encore important quand la route se termine, puisque c'est aussi le moment où le psychisme peut décompenser. Donc on a différents états de souffrance, effectivement, mais l'arrivée en France représente une immense désillusion et une immense déception, avec la confrontation à des violences sociales, matérielles, qui étaient effectivement inattendues. Et qui sont réels. C'est-à-dire que la précarité à laquelle les jeunes sont confrontés, par exemple nous avec qui on travaille, ils dorment dans la rue, quel que soit le temps, ils dorment avec des gens qui sont à la rue et qui vivent à la rue, ils vivent dans des lieux où il y a de la toxicomanie, de l'insécurité importante, et donc effectivement il y a des choses qui se répètent dans cette exposition à la violence et qui sont insupportables. Et pour continuer avec ce que vous disiez, il y a bien cette question de à qui s'adresser, parce que la situation administrative est illisible pour nous les jeunes, et si j'ai le temps j'aimerais bien quand même le développer, parce que ils sont dans un arbitraire immense, et donc quoi que vous fassiez, de toute façon ça dépend de la chance que vous avez. Donc il faudrait quand même qu'on mesure dans quelle place on met les jeunes et quelle logique on leur transmet en étant sur notre territoire.
De non-droit.
Alors, de non-droit et surtout d'arbitraire. C'est-à-dire que, juste pour finir ce que vous disiez, cet accès aux soins, c'est un droit. On sait les difficultés en santé mentale qu'il y a sur l'ensemble du territoire français, pour la population en général de toute façon. Il n'empêche pour autant que, effectivement, des gens ont des difficultés à accéder à ces soins. Il y a des lieux qui pourraient les recevoir, majoritairement sur l'Île-de-France, vous avez raison. Il y a certaines initiatives en région, comme à Rennes, à Bordeaux, à Lyon, etc., qui sont effectivement de petites initiatives, mais il n'empêche qu'elles sont importantes. Après, il y a la question de comment y accéder, comment savoir, et donc tout ce travail d'aller vers qui n'est pas fait par le droit commun et qui n'est pas fait par les associations de manière classique. Et donc, il y a toute cette question déjà de jonction. Et ça, c'est un travail qui est à faire et à réaliser, à prendre en considération. Et pour revenir à cette question donc de l'arbitraire, nous les jeunes avec lesquels on travaille, et c'est peut-être une spécificité dans laquelle ils sont, c'est que leur minorité va être déterminée, donc c'est-à-dire l'âge objectif qu'ils ont va être déterminé par un entretien fait par un travailleur social, donc c'est-à-dire de manière subjective. Et effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez au tout départ, on les fait témoigner de d'où ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont vécu sur la route et comment ça se passe depuis l'arrivée. Et à la fin de ce récit, on va dire si oui ou non ils sont mineurs, indépendamment des documents qu'ils présentent. Donc il y a effectivement quelque chose de complètement surréaliste là-dedans et dans le message qu'on envoie. Et donc des jeunes sont reconnus donc non mineurs. À la suite de leur récit. Il y a des gens qui ne sont pas en état de le faire, comme vous expliquiez tout à l'heure pour certains demandeurs d'asile, mais il y a aussi une incongruité totale. À partir de la manière dont on s'exprime, on va déterminer l'âge que vous avez. Et ensuite, ils sont placés donc, dans ce temps d'attente et dans cette précarité, dans une attente qui est commune aux demandeurs d'asile, mais qui a un caractère encore plus fou, c'est cet arbitraire qui est qu'un juge des enfants va reconnaître que vous êtes mineur ou pas, et sur quelle base ? Sur des bases qui sont contestables et qui sont contestées, comme les tests d'âge osseux, et où effectivement ça devient une loterie. Et donc, on a vraiment un souci à cet endroit-là.
Tout simplement parce qu'il n'y a pas de preuves, hein, tout simplement. Alors, être secouru en situation de détresse, tout de suite, un témoignage.
Priorité santé sur RFI.
Ce témoignage, avant de partir dans quelques instants pour la Guinée, parcours donc ponctué de violences à l'arrivée, procédure d'asile, engagée aussi parfois, un travail de thérapie quand c'est possible. Charlie Dupieux a rencontré cette jeune femme originaire d'Afrique de l'Ouest. Elle a fui son pays pour des raisons politiques. Son père était ministre au sein d'un gouvernement renversé par une tentative de coup d'État. Elle a subi des violences, des viols, une tentative d'assassinat. Et en France, depuis février 2018, l'association existentielle lui a proposé ce travail thérapeutique.
Il m'est arrivé de ne pas savoir où dormir, d'avoir vécu dans une grande maison et de se retrouver à appeler le 115 pour dormir dans des foyers avec parfois des sans-abri, des personnes alcooliques et tout. On se rend compte qu'on est passé de l'autre côté. Encore aujourd'hui, si je me dis, c'est pas moi, quoi. Ma vie, je l'ai pas dessinée comme ça. J'ai fait des études, j'ai un bac plus 5. Je peux pas me retrouver dans cette situation-là. Je ne l'assume pas du tout. D'être en demande d'asile, c'est comme si j'avais honte. Et donc, j'ai appelé le 115 tous les jours pendant peut-être plus d'un mois. Il y a une structure rattachée à la préfecture. Qui s'appelle Lofi, qui m'appelle un matin, on me donne une adresse, je vais à cette adresse-là. C'est une association qui vient en aide encore aux demandeurs d'asile. Et cette association-là me trouve un logement. C'est un appartement où je vis avec trois autres dames.
Là, vous y vivez encore ?
Oui, j'y vais encore. Ouais. Et après, c'est là que les dames du CADA de l'association m'ont présenté à la psychologue. Et moi, je voulais pas. J'ai dit, j'en ai pas besoin, quoi. Les psychologues, c'est pour les personnes qui sont pas bien dans leur tête, qui sont fous. J'en ai pas besoin. Et il y a un ami qui me dit, ça ne te coûte rien d'essayer. Je fais OK. Je crois qu'on a commencé en septembre 2018. Et donc, je la vois pour la première fois. Elle me parle d'une technique. MDR, ça s'appelle, je crois. Elle me dit, parce que moi, les souvenirs, ceux qui me mettent dans un état vraiment pas bien, je les ai rangés. J'essaie de ne pas y penser, parce que c'est difficile. Et c'est là qu'elle me dit, non, ces souvenirs-là, on ne peut pas les ranger comme ça. On va les ressortir, on va en parler avant de les mettre dans un mal et de les refermer. Et moi qui ne dors pas, je ne dors pas depuis plusieurs années. Je dors très peu. Parfois 3 heures, parfois 2 heures, parfois 2 jours d'affilée, je ne dors pas. Et ce jour-là, après la séance, je suis rentrée. J'ai pris une douche et j'ai dormi. Voilà, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé à la voir deux fois dans le mois, chaque deux semaines en fait. Et le fait de pouvoir parler à la psy, c'est... ça m'a sauvé la vie, je vais dire.
Témoignage anonyme, reportage de Charlie Dupiot et Lise Pestre. Il y a ces mots, ranger ses souvenirs, réussir à nouveau à dormir. Même si au début, on entend cette femme qui était très réticente à voir un psy, hein, comme beaucoup de gens d'ailleurs un peu partout dans le monde qui se disent « les psys, c'est pour les fous, moi je suis pas folle, je sais pas pourquoi je parlerai ». Puis finalement, elle s'en rend compte, ça fait un bien fou.
Oui, ben elle dit quelque chose qui est très clair aussi, qui dit « parler à la psy ». Hein, c'est-à-dire, quelle que soit la technique utilisée, hein, là en l'occurrence, bon, technique de MDR, moi par exemple, je travaille pas de cette manière-là, mais ce qui me semble important, c'est cette idée de parler, hein, d'avoir un tiers espace qui est celui du langage, de la parole, et qui est écouté. Hein, c'est-à-dire, il y a, je parle à quelqu'un qui m'écoute, hein, et c'est bien. Ce que cherche, hein, vous parliez tout à l'heure, Leslie.
C'est ce que j'entends.
Voilà, c'est ce que vous entendez et qui crée un effet de panique des fois derrière, parce qu'on dit mais moi je suis pas là, la bonne personne pour écouter tout ça. Qu'est-ce que j'en fais ? Or là, bon, c'est quand même notre travail, hein, donc on va accompagner, voilà, cet autre, hein, à la pêche finalement dans les profondeurs. De souvenirs à son rythme, hein. On va respecter son rythme. Il va pas y avoir de forcer à dire l'autre, hein.
Mais en même temps, on sent une véritable différence, Élise Pestre, entre ce récit, on va dire curatif, qui fait du bien, et puis le récit administratif qui va permettre de déboucher sur ces fameux papiers, ce fameux sésame. Et là, on va se livrer avec le risque derrière de ne pas être cru. Notre vérité n'est pas la vérité de l'administration. C'est quelque chose, là, carrément, on peut dire, de destructeur.
Absolument. C'est-à-dire que ce qui est essentiel, c'est que quand on est psychologue, psychanalyste, on recueille une parole qui n'est pas une... on ne va pas évaluer la véracité des propos de la personne. Moi, si la personne veut me raconter ce qu'elle veut de sa trajectoire et que, bon, j'ai envie de dire, m'en fiche des faits réels. Vous voyez, je ne suis pas là pour évaluer. Et ça change tout, parce que la personne peut se sentir libre. En fait, la psychothérapie, l'espace de la cure analytique, c'est un espace de liberté où la personne peut être libre et ne va jamais être évaluée dans son récit. Si on tombe dans l'évaluation du récit, alors on n'est plus psy, j'ai envie de dire. Hein, on devient un expert de la vérité du sujet. Or, ce n'est pas notre travail. Et on ne peut pas entendre et créer un lien de confiance s'il n'y a pas cette non-évaluation-là, finalement.
Avec une multiplicité de situations, c'est ce qu'on va voir tout de suite en partant pour la Guinée.
Priorité santé sur RFI.
En ligne de Conakry, Alassane Chérif, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes psychologue clinicien en Guinée. Alassane Chérif, vous prenez notamment en charge ceux que l'on appelle les retournés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont vos patients ?
Ah, mes retournés, vous savez, si vous permettez, avant de répondre à votre question directement,
oui.
Je voulais faire une petite différence migration et exil. Une petite minute, parce que la migration, ce que je peux dire, elle est choisie. Si celle-là est choisie, l'exil, dont font partie les réfugiés, est un voyage au prix de sa liberté et de sa vie. Alors, quand je viens retourner de Guinée, ce sont ces jeunes qui ont fait des voyages, qui ont fait presque des tentatives avortées, et en passant par la Libye, avec toutes les épreuves, et qui finalement reviennent au pays. Alors, il faut que je vous décrive tout de suite qu'il y a deux catégories, hein, parmi ces retournés. Il y a ceux qui reviennent de façon définitive et qui ne veulent plus repartir parce qu'ils en ont assez de la souffrance qu'ils ont subie. Il y a ceux qui, membres du cul, veulent retourner, comme une forme de pulsion, attirés par une pulsion, où ils ont absolument envie de repartir. Donc moi, je rencontre ces deux catégories-là, ici en Guinée, avec mon association guinéenne des psychologues cliniciens. Et ils sont accompagnés par une structure qui s'appelle l'OIM, Office de l'immigration, et qui est en Guinée ici, avec laquelle on travaille de temps en temps.
Depuis le début de l'émission, avec les praticiennes qui sont autour de cette table, on a parlé de certains troubles, de traumatismes communs parfois même. Alassane Chérif, justement, ces personnes qui ont échoué dans leur parcours migratoire ou tentative d'obtenir le statut de réfugié, est-ce que ces personnes présentent des troubles caractéristiques ?
Oui, oui. Moi, je remarque de façon globale que alors, il y a une autre catégorie sur laquelle je ne suis pas revenu, c'est lorsque j'étais en France, parce que j'ai encore un centre qui s'occupe des migrants là-bas. Et je pense que tous ces gens-là présentent à peu près les mêmes troubles, c'est-à-dire pas tout à la fois. On peut citer parmi elles beaucoup d'anxiété, de traumatisme, ce que j'appelle le stress post-traumatique. Et il y a des névroses traumatiques à outrance, donc il y a des délires de persécution, parce que ils peuvent, même ici en Guinée, il y a un jeune qui m'a dit, j'ai l'impression que quelqu'un de la Libye me poursuit ici en Guinée. Ils ont des troubles de sommeil, alors là c'est chargé, hein, des nuits chargées de sang et de cadavres, beaucoup d'anxiété, des troubles psychosomatiques aussi, mal partout, et vous avez beaucoup de névroses phobiques. Comme j'ai remarqué aussi, il y a de la culpabilité, parce que cette culpabilité, alors pour ceux qui sont là, je pense que c'est lié au fait que bon, la maman ayant vendu ses bijoux, a voulu que je parte, et si je ne reçois pas, ça aussi c'est chargé de culpabilité. Ça, je peux vous dire que j'en rencontre peut-être un par personne ou deux, mais ça se présente de façon récurrente.
Alors l'échec personnel, on l'a compris, avec toute la famille qui a parfois aidé, poussé à partir, l'échec personnel devient un échec collectif à Alassane Chérif. Alors comment réagissent les personnes qui sont rentrées ? C'est quoi ? C'est la honte, l'impression de ne pas avoir rempli sa mission ?
Tout à fait. C'est la honte même de la famille. Alors moi, je reçois ces jeunes-là de façon isolée. Mais parfois, je peux les recevoir aussi avec la famille. Je demande à ce que la famille vienne et entende ce qui se passe. Bon, malgré tout, il y a des familles qui disent « Non, 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 je veux que mon fils parte. » Et là, on n'a aucune emprise sur cette situation. Mais il y en a qui comprennent qu'il vaut mieux que l'enfant soit là que d'aller confronter la mort. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de la mort qui se passent. Donc c'est l'échec de la famille tout entière quand ça se passe. Et quand les gens n'ont pas compris le bien fondé, le fait que, bon, il faut aussi réfléchir avant de partir. Parce que notre psychothérapie n'empêche personne de partir ou de rester.
Alassane Chérif, excusez-moi, mais on imagine que beaucoup de ces personnes, si ce sont des jeunes gens par exemple, n'ont pas pu raconter tout ce qu'ils ont vécu à leur famille en rentrant. Il y a encore du non-dit, il y a du secret, parce que c'est trop dur ce qui s'est passé, qu'on ne peut pas le raconter à la famille.
Tout à fait. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas raconter à la fille, notamment les jeunes filles, parce qu'elles ont été des objets sexuels. On ne peut pas raconter ça, parce qu'il y a la honte, parce qu'il y a l'humiliation, il y a beaucoup de choses autour, effectivement, de façon individuelle. Ces enfants nous racontent, bon, comme nous sommes tenus par la discrétion, il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcément raconter à la famille, mais quand c'est très très difficile, nous persuadons les jeunes d'en parler eux-mêmes, de ne rien cacher aux parents pour qu'ils comprennent vraiment la réalité de leurs difficultés. Parce qu'on sent aussi, vous avez raison, que certains jeunes sont contraints, presque aussi obligé par certains membres de la famille. Voilà.
Merci beaucoup, hein, Alassane Chérif. J'ajoute que vous êtes professeur, créateur d'un master de psychologie clinique et psychopathologie à l'université Sonfonia de Conakry. Vous vouliez réagir, Élise Pestre, en écoutant ce que nous disait Alassane Chérif sur ses retournées de Conakry.
Tout à fait. Alors, le collègue évoquait la question de la honte hein, et de l'humiliation, et la dame dont on a entendu le témoignage aussi avant. Et oui, je crois que c'est un point tout à fait important. Nous, on est allés aussi autour, là, quand il y avait vous savez, la bulle, la porte de la chapelle qui accueillait le centre...
des migrants.
De migrants, tout à fait, le camp humanitaire. Et donc, autour, il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas rentrer hein, et qui étaient plaqués au sol, à même le tarmac, si je puis dire, qui attendaient en vain de pouvoir aller dans ce centre, hein, qui a depuis, qui n'existe plus. Mais il y avait beaucoup cette honte-là. Hein, et je crois que cette honte-là... voilà, il faut pouvoir l'accueillir aussi et que, alors je ne sais pas comment, si notre collègue en Guinée, comment ça se passe ce travail aussi avec les familles, mais c'est vrai que ça, je dirais que ça en rajoute des fois une couche hein, totale de se dire, bon bah je suis partie avec un idéal hein, très très fort. De soit un peu venir en aide à ma famille depuis l'Europe, soit... moi, je vais changer pour une vie meilleure. Hein. Ça, on l'a beaucoup entendu. Moi, on est allé beaucoup dans les camps, même dans le nord de la France, etc., les camps de réfugiés. Et c'est vrai que quand cet idéal tombe, hein, les personnes s'écroulent et la honte inonde la personne. Et c'est vrai que ce serait important là, qu'il y ait un travail du social aussi qui soit fait pour qu'il y ait une place à moins d'exclusion du politique, mais aussi des familles, de tout le monde, quoi.
Leslie Carretero. Juste pour répondre rapidement, une telle honte, ils n'appellent même pas leur famille. C'est parfois, ça. Ils sont en France Absolument. Et ils ne veulent pas appeler leur famille pour leur dire « je suis dans un camp ». Leur famille n'est même pas au courant de où ils sont.
Des Absolument. Illusions et les souffrances vécues. Mélanie Kerlock, donc vous prenez en charge des jeunes. On arrive vraiment à la fin de l'émission. Est-ce que certains des jeunes dans ce centre MSF de Pantin expriment le souhait de rentrer, de retourner à la maison?
Alors, la plupart du temps, c'est certain qu'il y en a beaucoup qui ont des doutes hein, sur le fait d'être venus ici. Mais pour autant, ce qui a été vécu a été trop trop difficile, trop douloureux. Parce que je pense que, de manière générale, on sous-estime la cruauté à laquelle ils ont été exposés. Et le fait de refaire le chemin en sens inverse, même en étant raccompagné par l'OIM, enfin, je veux dire, c'est pas possible d'avoir payé autant de sa personne pour que ça ne donne rien et de revenir
dans... Et en plus, avec l'impossibilité de raconter à l'arrivée en plus ce qu'on a vécu.
Tout à fait. Parce qu'il y a quelque chose dans l'impossibilité de raconter qui se pose aussi ici. Hein. C'est effectivement cette cruauté à laquelle les gens ont été exposés. Et notamment les violences sexuelles, on en parle beaucoup pour les filles, mais ça concerne aussi les garçons. Tout à fait.
C'est ça.
Et dans une très très grande difficulté, dénoncer cela et comment l'accueillir.
Merci beaucoup. Hein. Merci toutes les trois d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Merci à vous, Leslie Carretero, journaliste pour le site Infomigrant. Élise Pest, je rappelle le titre de cet ouvrage de référence, on peut le dire. Hein. La vie psychique des réfugiés aux éditions La Petite Bibliothèque Payot. Et à vous, Mélanie Kerlock, responsable des activités de santé mentale du centre MSF pour mineurs non accompagnés à Pantin, en région parisienne. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Aujourd'hui, Juliette Brou et Didier Bleu. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Faites comme tous nos clients prévoyants, mettez à l'abri ceux qui vous sont chers. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Tout à l'heure sur